Bienvenue au Voix des Chapitres. Je suis Tim et voici Julien. Restez un instant et écoutez-nous. Dans ce nouvel épisode, nous entamons ce qui est pour nous la dernière branche de l'arbre de l'imaginaire, le polar. Mais ce genre est vaste et il se présente de manière diverse et variée. On ne va pas lire un policier de la même manière qu'un thriller. On ne trouvera pas dans un policier historique la même saveur qu'un policier social. Nous proposons donc plusieurs œuvres qui permettent de découvrir certaines ramifications du genre, et on en profite pour les expliquer en plus. Donc préparez-vous, on enfile notre plus beau trench coat, on aiguise nos sens de déduction, suivez-nous dans la découverte du polar.
Contrairement aux branches évoquées dans les précédents épisodes, le polar ne propose pas un univers, mais une structure. On va reconnaître ce genre à sa narration et ses thèmes, il se déroule généralement dans notre réalité, mais cela n'est pas obligatoire. Petit disclaimer, nous parlons du polar comme la branche générale de laquelle émergent des plus petites branches comme le policier, le thriller ou plein d'autres trucs. C'est notre définition, vous pourriez en trouver d'autres, mais on va parler avec ces termes-là pour éviter les incompréhensions. Voilà. Le polar met la plupart du temps le protagoniste face à un problème, une question à laquelle il ou elle va devoir répondre pendant l'histoire. Il y a évidemment beaucoup de questions possibles, mais une des premières qui nous ramène à l'origine du roman policier, c'est Who Done It. Le Who Done It, que je vais traduire librement par « qui qu'a fait », est un genre policier particulier qui répond à une structure simple. Quelqu'un est mort, et le héros doit retrouver le meurtrier en cherchant dans les mobiles potentiels l'arme du crime ou tout autre indice pour mener à bien ses investigations. Les péripéties mises en scène dans l'histoire vont être liées à l'enquête. Nouveaux témoignages, découverte d'un secret qui remet en cause ce que l'on pensait avant. Le genre du Who Done It connaît une sorte d'âge d'or dans la première moitié du XXe siècle à travers de nombreux écrivains. C'est l'occasion de parler d'une de ses plus grandes représentantes, Agatha Christie. Écrivaine britannique née en 1890 et morte en 1976, autrice d'une œuvre considérable la plus traduite au monde. Plus de 50 romans, 154 nouvelles et une vingtaine de pièces de théâtre, excusez du peu. En plus de son œuvre, sa vie est romanesque à souhait. Je mentionne par exemple qu'elle accompagnait souvent son deuxième mari, l'archéologue Max Mallowan, dans des fouilles au Proche-Orient, qu'elle y participait sans souci des conventions sociales de l'époque, et qu'elle en a tiré un excellent texte autobiographique, La romancière et l'archéologue, disponible chez Payot, et que l'Orient sert de paysage à certains de ses romans, dont mon préféré, Meurtre en Mésopotamie, publié en 1936 et disponible au livre de poche, comme quasiment toute son œuvre, et qui se déroule sur un chantier de fouilles. Parlons un peu plus de ce livre-là pour comprendre le principe de structure dont je parlais précédemment. Amy Leveren, la narratrice de ce roman, est une infirmière engagée pour veiller sur Louise Ledner, épouse d'un archéologue chargé des fouilles d'un site antique dans l'Irak actuel. Louise est une personne, disons, franche et directe, qui raconte à l'infirmière avoir reçu à plusieurs reprises des lettres de menaces depuis son mariage par son ex-mari, censé être mort dans un accident. Elle sera retrouvée morte quelques jours après ces révélations. Le meurtre semble insoluble. Personne n'avait pris au sérieux ces histoires de menaces, l'arme du crime a disparu. Devant cette affaire, on appelle le légendaire Hercule Poirot à la rescousse, qui n'était pas très loin, ça tombe bien. Je ne dévoilerai pas le reste de l'intrigue, mais certains éléments peuvent être pointés, car ils correspondent à un ensemble de clichés, de tropes, inhérents à ce type d'histoire. Le lieu permet tout d'abord de créer une situation de huis clos. Il y a peu de personnes sur le site, le lieu est éloigné de la ville, tout le monde se côtoie depuis plusieurs mois. L'arrivée d'Hercule Poirot montre un personnage qui fait tout pour contredire sa réputation de maître enquêteur. Son physique et ses manières jurent au milieu des archéologues et des ouvriers. Cet écart est d'ailleurs accentué par le fait que nous le voyons à travers les yeux de l'infirmière, qui ne connaît pas ce dont Hercule Poirot est capable, contrairement au lecteur. Les péripéties seront liées à l'intrigue. Séquences interrogatoires, confrontation des alibis, découverte de l'arme du crime, et la résolution de l'énigme se fera à travers une convocation de l'ensemble des membres du chantier et un monologue de Poirot pour remettre les pièces du puzzle en place pour une révélation finale qui surprendra tout le monde. Si ces éléments peuvent être donnés sans crainte de spoiler ou de divulgachage dans la langue de Céline Dion, c'est qu'ils sont constitutifs de toutes les histoires mettant en scène Hercule Poirot. Huis clos, enquêteur sous-estimé, révélation finale, sont autant de clichés que le lecteur est en droit d'attendre d'une histoire d'Hercule Poirot. Ce sont ces éléments, en plus de la présence du célèbre enquêteur, qui permettent de définir Meurtre en Mésopotamie comme une histoire faisant partie de cette série. C'est la même structure dans Le Meurtre de l'Orient Express, le huis clos étant un train, ou de Meurtre sur le Nil, l'intrigue se déroulant sur un bateau de croisière, pour prendre les exemples les plus célèbres et caractéristiques. Une fois que cette structure est posée et préméditée par le lecteur, c'est le rôle de l'auteur de jouer avec ses attentes sans les dévoyer, ce qui implique un recul sur l'intrigue et un humour certain, très britannique, chez Agatha Christie. Pour ça, on va juste évoquer l'héroïne de l'autre série phare de l'autrice, Miss Marple, une petite vieille qui ne peut pas aller en croisière ou chez des amis sans se retrouver au milieu d'un meurtre, infatigable commère qui ne peut s'empêcher de nous abreuver d'anecdotes sur ses voisines ou ses oncles, horripilante pour les suspects et donc extrêmement drôle pour nous, lecteurs. Malgré leur caractère décalé, ce sont ces histoires qui permettent à la Miss de comprendre les rouages intimes qui amènent à la violence dans une veine plus psychologique. On parle alors de cozy mystery, des intrigues où l'on rentre dans des méandres familiaux, parfois complexes, mettant en scène des détectives amateurs et des révélations plus intimes.
Et puisqu'on parle de Wooden It, il y a un manga qui est parfait pour ça et qu'on peut mettre entre toutes les mains, c'est Détective Conan de Gosho Aoyama. Série commencée en 1994, et ça continue encore aujourd'hui, on peut les trouver en France aux éditions Glénat. L'histoire est simple, et un brin fantastique au début. On suit le jeune Shinichi Kudo, détective lycéen aux airs de Sherlock Holmes, qui passe son temps libre à agir en tant que consultant pour la police. Suite à une altercation qui a mal tourné avec des représentants de l'organisation, il se retrouve forcé à boire un poison qui va le faire régresser à l'âge de 6 ans, même s'il conserve son esprit brillant et ses souvenirs. Afin de conserver son identité secrète et pouvoir débusquer les responsables de sa transformation, il réussit à se faire passer pour un parent éloigné du professeur qui l'aide dans ses enquêtes. Il va ainsi rentrer dans la famille de Ran, son ami d'enfance. Il décide pour couvrir ses traces de changer de nom et devient Conan Edogawa pour Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, et Rampo Edogawa, l'un des fondateurs du roman policier japonais. On le suit donc résoudre différents crimes, tout en cachant sa véritable identité, chaque enquête se composant à la manière d'un Sherlock Holmes ou d'un Agatha Christie, recherche d'un mobile et de l'arme du crime, et découverte du coupable. Le tout fait de manière spectaculaire, il s'agit quand même de montrer qu'il a du bagout le petit. Une série passionnante aux affaires diverses et variées, qui mêle humour et intelligence, un véritable régal qui peut être mis entre toutes les mains. Ce qui n'est pas le cas de notre prochain titre. Car si un policier peut potentiellement ne pas être violent, et accessible à tous, il n'en est pas de même avec le thriller. Le thriller, c'est mon style favori dans le polar, et il va se démarquer de plusieurs manières. Pour les expliquer avec des mots bien placés, on va se baser sur l'article que vous retrouverez sur le site de la Cube. Merci à eux. Contrairement au policier Wooden It, où on suit une structure précise, dans le thriller, c'est un peu plus compliqué. Le meurtre, ou crime initial, n'est pas celui qui doit être résolu. Il est le départ d'un projet plus grand, que les protagonistes doivent empêcher. Le coupable doit donc être trouvé, oui, mais il faut aussi comprendre les machinations qu'il a mises en place. Nos héros doivent survivre face à l'horreur qui se présente, et la déjouer. Le tout se faisant par une plongée dans la psychologie de l'ennemi, mais aussi des différents personnages, expliquant un trauma ou un lien, direct ou indirect, avec l'affaire. Si un policier se détermine par l'intelligence de son enquêteur et de la mise en place de la résolution, dans le thriller, l'accent est avant tout placé sur la psychologie et l'impact que les crimes ont causé, que ce soit directement ou à long terme. Et justement, cet aspect sera déterminant dans le manga Prophétie. Prophétie, de Tetsuya Tsutsui, est une série en 3 tomes, prépubliée de 2011 à 2013. La version française est disponible chez Kiun. Mais avant de parler de Prophétie, il faut parler de l'auteur. Tsutsui est un mangaka indépendant. De fait, contrairement à d'autres mangakas, il ne travaille pas pour un magazine. Et ainsi, certaines de ses séries ont d'abord été mises en ligne sur Internet. Pour une raison très simple, il critique ouvertement la société japonaise. Et contrairement à Urasawa, dont on a parlé dans le chapitre sur la science-fiction, il ne fait pas l'objet d'une validation publique. De fait, il a été blacklisté dans plusieurs librairies nippones. Par contre, il est adulé à l'étranger, et notamment en France, où il est venu plusieurs fois en dédicace. Cet aspect critique, on le note dans toutes ses œuvres. Mais avec Prophétie, on s'attaque à un thriller qui va vraiment forcer la réflexion sur l'impact des réseaux sociaux et l'influence néfaste qu'Internet peut créer. L'histoire commence avec Paperboy, une figure underground de l'internet qui annonce des prophéties. Alors attention, par prophétie, il annonce simplement les punitions qui seront administrées à des personnes coupables de différents délits ou humiliations commises contre des victimes fragiles ou incapables de se défendre. N'oubliez pas, on est au Japon, donc le respect de la hiérarchie n'est pas un sujet de rigolade. C'est sérieux, et ça doit être exercé. Ce qui, forcément, peut entraîner des dérives. Ça arrive aussi chez nous, bien sûr. Mais là, la loi, elle est encore plus du côté des coupables. Bref. C'est en publiant des vidéos de ses punitions, en se couvrant le visage du journal du jour, qu'il parvient à montrer qu'il est l'organisateur. Et parfois, ça va très loin. Mais ça ne l'empêche pas de devenir l'idole des geeks et otaku sur la toile, qui voient en lui une espèce de justicier capable de châtier la société des gens qui leur ont fait du mal. Toutes ces actions, et cette notoriété qu'il va gagner, vont donc rapidement alerter le nouveau service de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo, qui est dirigé par l'inspectrice Erika Yoshino, et qui va devoir rapidement identifier qui est Paperboy, pour l'arrêter et mettre fin à sa vendetta. Tout ça avant que l'opinion publique grandissante ne puisse les arrêter. Si Prophétie se présente comme un thriller à l'écriture puissante et au visuel percutant, c'est avant tout le sous-texte qui fait toute sa grandeur. Car à travers cette critique des réseaux sociaux et de leur déviance, c'est avec le personnage de Paperboy qui apparaît comme un justicier pour des parias que Tsutsui peut mettre en avant bon nombre d'injustices sociales qui sévissent dans la société japonaise, et notamment dans le monde des entreprises. Et c'est en suivant l'inspectrice que nous, lecteurs, allons en découvrir un peu plus sur le passé de ce justicier masqué et les raisons qui l'ont poussé à vouloir nettoyer le système. C'est par ce biais-là que la série interroge et nous force à réfléchir sur l'impact de nos choix et de nos actions sur le monde virtuel. Sujet d'autant plus pertinent à une époque où tout peut se faire ou se défaire sur les réseaux sociaux.
La structure classique d'un roman policier a l'avantage d'être transportable dans d'autres univers ou d'autres contextes. On parle alors de polar historique. Celui-ci apparaît au milieu du XXe siècle pour renouveler un genre qui avait peut-être fait le tour de la campagne anglaise, avec par exemple les aventures du Ji, un magistrat qui officie dans la Chine du VIIe siècle de Robert von Gulick, ou les œuvres d'Ellis Peters qui mettent en scène un moine bénédictin du XIIe siècle en Angleterre. Pas besoin de partir très loin dans le temps d'ailleurs, vu qu'on peut considérer que toute histoire policière qui n'est pas contemporaine de l'auteur qui les écrit est finalement un polar historique. Mais bref, on va présenter une série française assez exemplaire de ce type de policier, les aventures de Nicolas Le Floch, héros d'une série de romans policiers créés par Jean-François Parot, démarré en 2000 avec le premier tome, L'énigme des blancs manteaux. L'histoire suit les aventures de Nicolas Le Floch, donc, enfant trouvé breton et enquêteur au Châtelet à Paris. Le premier tome se situe en 1761 et nous allons suivre au long des 16 livres publiés, la série est toujours en cours, en parallèle des enquêtes, l'évolution de sa vie personnelle, histoire intime, avancement au sein de la police royale, et l'histoire avec un grand H, les intrigues politiques à la cour de Louis XV puis Louis XVI. Jean-François Parot fait rentrer d'une manière crédible son personnage dans le contexte historique de son époque. Un grand nombre de personnages ont réellement existé, comme son supérieur dans le premier tome, Antoine de Sartine, qui devient secrétaire à la marine sous Louis XVI et est remplacé par Jean-Charles Pierre Lenoir en 1774, ce qui correspond au quatrième tome, l'affaire Nicolas Le Floch. L'histoire parvient à rendre cohérente l'implication de l'enquêteur dans les grandes affaires et questionnements de son temps. Le personnage est progressiste sans avoir des réflexions anachroniques pour son époque, qui est un moment de grande réflexion sociale, un moment aussi où la question de l'ordre public et la place de la police se pose de manière accrue. Pour info, hein, la préfecture de police de Paris est créée en 1800, pas très loin des réflexions qu'on voit dans les romans. Si l'œuvre de Jean-François Parot confronte son héros au vent de l'histoire, elle vaut surtout pour sa description de l'ambiance et la vie parisienne de cette époque. Le Floch et ses amis sont amateurs de bonne chère, et les descriptions des repas sont parfois de vrais morceaux de bravoure avec de nombreuses descriptions de recettes de ce siècle. Et ce n'est pas un hasard. Jean-François Parot n'est pas un écrivain à temps plein, il a fait sa carrière au ministère des Affaires étrangères dans de nombreuses ambassades où il défendait une diplomatie culinaire et le prestige de la cuisine française. On peut voir l'intrigue policière dans les aventures de Nicolas Le Floch comme la structure qui motive à découvrir une période historique foisonnante, culinairement et socialement. A noter que l'œuvre continue malgré la mort de son créateur en 2018. Laurent Geoffrin a publié deux suites à l'histoire en 2021-2022 qui font vivre l'enquêteur dans les méandres politiques de la Révolution française. La structure classique d'un roman policier a l'avantage d'être transportable dans d'autres univers ou d'autres contextes.
Après s'être intéressé à l'enquête comme témoignage d'une époque, on va s'intéresser au polar dans un cadre plus social. Et pour ça, on va utiliser le comics. Si on peut facilement penser que les comics, c'est surtout les super-héros, ça serait oublier une partie importante de ce médium, qui tourne autour du polar. On peut trouver des thrillers fantastiques, comme Preacher de Garth Ennis et Steve Dillon. Il existe également des comics policiers qui sont ancrés dans notre réalité, comme par exemple 100 Bullets de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Les deux ouvrages sont disponibles chez Urban Comics. Ce genre et ses différentes ramifications font pourtant partie intégrante du comics. Après tout, les comics pulp qui ont tant inspiré de films policiers en sont la preuve. Mais il y a un style du polar qu'on retrouve peu en comics et qui nous intéresse particulièrement, c'est le polar ethnique. Une histoire qui présente un peuple ou une partie de la population et qui place le crime comme résultat d'une situation ethnologique ou sociétale. Et pour ça, l'un des auteurs les plus pertinents à nos yeux, c'est Jason Aaron et sa série Scalped. Scalped, ou Scalped, c'est un comics à l'origine en 10 volumes, publié chez Vertigo, le label indépendant de DC Comics. On en a parlé dans l'épisode du Fantastique. Écrit par Jason Aaron et dessiné par R.M. Guerra, il est aujourd'hui disponible en 5 volumes chez Urban Comics. Là encore, merci Urban Comics. L'histoire nous plonge aux côtés de Dashiell Bad Horse, qui retourne après 15 ans dans la réserve amérindienne de Prairie Rose. Cette réserve qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, cette réserve qu'il a fui, pour éviter de succomber à la misère, le désespoir et la pauvreté qui ont pris racine. Et depuis son départ, rien n'a changé. Engagé dans la police tribale du chef Red Crow, qui s'avère être aussi le futur propriétaire du casino en construction sur la réserve, ainsi que le parrain de tous les trafics illégaux qui ont lieu à l'intérieur, dont drogue, alcool, etc., Dashiell va devoir mettre au pas les traditionnalistes natifs à grands coups de pied dans la gueule, pour permettre l'émergence du progrès et du futur. Un nouveau départ pour le fils d'une des plus ardentes défenseuses de la libération amérindienne, mais au final, le but de la chevauchée du Bad Horse est peut-être ailleurs. Scalped, c'est un comics qui prend aux tripes. L'intrigue ne commence pas par un crime, mais nous place dans une partie de l'Amérique qu'on voit trop peu en Occident. Aaron nous dépeint un univers où les seules manières de vivre se trouvent dans la vente de drogue ou la prostitution. La seule échappatoire, c'est la fuite. Forcé d'enterrer une culture ancestrale au profit du capitalisme et des investisseurs. C'est en nous mettant face à cet univers sombre et sordide, souligné par le graphisme de Guerra, que la dimension de polar ethnologique prend vraiment place, puisque Dashiell est entouré de personnes ayant une histoire, un vécu, plein de secrets mais aussi d'illustrations de la décadence de la réserve et du traitement de la population amérindienne et des réserves par le pays. On va ainsi voir évoluer le destin de cette réserve et de Bad Horse, au final tiraillé entre son peuple, sa culture, et le monde moderne qui lui a permis de s'en échapper. Jason Aaron fait partie de ces auteurs qui se sont fait connaître par leur travail de réflexion sur la société, mais c'est avec Scalp qu'il va vraiment signer d'une pierre blanche le monde du comics. Un comics qui, grâce au travail de Guerra, a aussi mis en lumière la condition des Amérindiens et des réserves face à une société qui tente de la dépouiller, malgré ce qu'elle aura déjà pris. Il n'est donc pas étonnant de voir que Aaron a continué son exercice avec Jason Latour dans Southern Bastards, qui va cette fois nous permettre de découvrir l'envers du décor des villes pittoresques du sud des États-Unis, ainsi que le futur qui attend les soldats revenus de la guerre.
On reste dans une ambiance américaine pour parler de la série Black Sad, série de Juan Díaz-Canales au scénario et de Juan Rogarnido au dessin, dont le premier tome, Quelque part entre les ombres, est sorti en 2000. Le tome 6, Alors tout tombe, première partie, est sorti en 2021. Le tout est édité chez Dargo. And the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Dans un monde d'animaux anthropomorphes dont l'espèce reflète le caractère, John Blacksad est un chat noir qui exerce la fonction de détective privé. Dès la première case du premier tome, le ton est donné, je cite, « Il y a des matins où l'on a du mal à digérer son petit déjeuner, surtout si on se retrouve devant le cadavre d'un ancien amour. » L'ambiance est sombre, poisseuse. Blacksad va remuer le passé en même temps que les ombres de sa mémoire à la recherche de son ancien amour. Joueur de blues en des bouges enfumées, boxeur reconverti dans la sécurité, starlet prêt à tout, flic désabusé ou corrompu, tueur de sang-froid, littéralement, voix off balançant de la punchline au kilomètre, le tome 1 de Blacksad est un hommage assumé, voire un pastiche, au genre hard-boiled, qu'on peut traduire par dur à cuire, un genre de polar principalement américain mettant en scène un détective privé désabusé dans un monde corrompu et cynique où les mafieux ne valent pas mieux que les juges. L'anthropomorphisme du monde permet d'exacerber ces clichés. Le commissaire est un berger allemand et son adjoint un renard, le boxeur en gorille, etc. Les ombres ne se dévoilent que pour révéler d'autres secrets, et la résolution du crime n'est qu'une manière pour le héros de mettre une pièce dans la machine et y croire encore un jour de plus. Si le premier tome de la série est un hommage donc au genre hard-boiled, chacun des tomes peut être vu en référence à un sous-genre du polar. Polar ethnique dans Arctic Nations, politique dans Âme Rouge, roman picaresque ou road movie dans sa version américaine dans Amarillo, etc. Chaque tome joue avec les codes de son genre, profitant de l'anthropomorphisme pour filer les métaphores sur la psyché humaine. Le dessin n'est pas en reste, jouant sur les couleurs ou même les techniques picturales suivant les tomes. Le quatrième, L'Enfer, le silence, s'il ne propose pas le scénario le plus complexe de la série, joue avec la couleur et les aquarelles pour des scènes hallucinées et hallucinantes dans la fièvre du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Quand Black Sad est heureux, et c'est rare, le dessin s'en ressent. Quand le héros revient à New York au début du tome 6, après la traversée des États-Unis des tomes 4 et 5, l'ambiance est même gaie et colorée dans un théâtre à ciel ouvert de Central Park, avant que les ténèbres ne reviennent, insidieusement et inexorablement. Nous avons terminé, avec cet épisode, un premier voyage dans les chapitres du grand arbre des littératures de l'imaginaire. Nous ouvrons à partir de maintenant Book Tales, un format un peu différent, où nous parlerons plus en profondeur d'une œuvre ou d'une thématique au regard des genres dont nous avons parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Terry Pratchett et des Annales du Disque Monde. Vous serez les bienvenus, on voit des chapitres.